RMC. Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Football Show. Le Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec vous, c'est parti pour 3 heures d'after. On est ensemble jusqu'à minuit. Un grand after en ce lundi. Ce sera comme ça d'ailleurs quelques lundis, pas toute l'année. Voilà, jusqu'à ce que nos copains du basket reviennent avec leur ballon orange. Mais en attendant, on va se récaler pendant 3 heures. On vous attend 32-16 sur le hashtag RMC Live, bien entendu. Avec nous ce soir, Samuel Ipoix. Bonsoir, Sam.
Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Petite voix là-haut, qu'est-ce qui t'arrive?
Si, ça va venir.
Ça va venir là?
Oui, oui.
C'est
oui.
Un diesel, le mec. Ouais, tant plus chaud. Jonathan Macardy, qu'il est beau. Alors, RMC Sport News, vous vous branchez. Voilà, costume gris, 3 pièces. Cravate violette. Ah oui, chemise grise.
Toujours quand t'es là pour toi, mon bichon.
Ouais, c'est toujours ça, tu dis ça à tout le monde.
Alors. Mais curieusement, t'as vu.
C'est pas vrai, je suis pas comme toi, moi. Je suis pas comme toi. Hein. Mais toi, tu me fais beaucoup trop d'infidélité.
Ah, mais là, je crois que là aussi, tu fais une petite infidélité. Du violet, d'habitude, c'est couleur marseillaise. Du coup, ce week-end, ça n'a pas été, tu changes de couleur.
J'y ai pas pensé. Mais j'ai une chemise bleue.
Ouais. Ah, d'accord. Il a cherché son polo Lacoste toute la journée.
Tu deviens Toulousain.
Et Marseille a un maillot violet cette saison aussi.
Ah bon?
Le maillot Ferd, il est violet, je le sens bien.
Tu te rattrapes bien.
Exactement, ouais.
Messieurs, il y a du football ce soir également. Ça joue entre Metz et Ajaccio. Quatrième journée de Ligue 2. Sébastien Ruffet suit ce match pour nous. Est-ce qu'il est là, Seb? Salut, Seb.
Bien sûr qu'il est là. Bonsoir.
Oui, il est parti.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Eh bien, écoutez, pour l'instant 0-0 après 17 minutes de jeu. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il y avait du rugby avant, donc voilà, forcément, c'est un peu plus compliqué. Tu vois. Maintenant que vous êtes là, on va pouvoir parler un petit peu.
Voilà, dis-leur de marquer maintenant.
Voilà, maintenant ils peuvent marquer. Maintenant, ils ont le top départ. 17 minutes de jeu, c'est assez équilibré entre ces deux équipes. On rappelle que Metz, c'est bien peu. Reprendre la tête de cette Ligue 2 ce soir en 4 victoires par 2 buts d'écart, ça ferait une 4ème victoire en 4 matchs et même 5 avec la Coupe de la Ligue. Ce sera un sacré début de saison, mais les Ajacciens sont plutôt pas mal et on les a vus avec Nouri tout à l'heure, une belle frappe enroulée. C'était la plus grosse occasion du match, c'était pour les Ajacciens, mais Alex Oukidja, le gardien messin, était parfaitement sur ses appuis, il a parfaitement détourné en corner. Voilà, 18 minutes pas tout à fait ici à Saint-Symphorien avec pas mal de monde quand même, et toujours 0-0 entre Metz et Ajaccio.
Ouais, Ajaccio qui était barragiste la saison dernière, hein, notamment ce match face au Havre, on s'en souvient.
Rappelle.
Oui, et qui est pas bien là en ce début de saison en revanche.
Non, pas très bien, avec notamment 2 défaites à domicile, mais par contre leur victoire en championnat c'était à Béziers et la qualification en Coupe de la Ligue c'était sur la pelouse du Paris FC. Donc peut-être que ce soir, avec ce déplacement, il y a peut-être un petit peu moins de pression que chez eux. Et d'ailleurs, ils jouent, ils font largement jeu égal avec l'un des gros calibres, on va dire, de cette Ligue 2 pour l'instant. Donc pourquoi pas, eh bien profiter de ce déplacement pour revenir un petit peu dans cette Ligue 2.
N'hésite pas à intervenir s'il se passe quelque chose entre Metz et Ajaccio. Il y a également du foot féminin. Vous savez que dans quelques mois, ce sera la Coupe du Monde féminine en France. Loïc Braillet suit pour nous la demi-finale de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Ça joue entre la France et l'Espagne. Bonsoir Loïc.
Salut Nico, salut à tous. Et ça va mal pour les Françaises. On joue la 77e minute. L'Espagne mène 1-0. L'Espagne qui a été réduite à 10 après un carton rouge il y a maintenant une dizaine de minutes. Penalty il y a quelques instants pour l'équipe de France, penalty arrêté par la gardienne espagnole et donc raté par Katoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain. Là, les coups du sort se multiplient contre l'équipe de France qui est donc toujours en supériorité numérique, mais ça va être très compliqué parce que toute la confiance est désormais côté espagnol. Les Espagnols qui mènent donc 1-0 à un quart d'heure de la fin de cette demi-finale et ce sera pour rejoindre le Japon en finale qui s'est qualifié après sa victoire face à l'Angleterre tout à l'heure, 2-0.
Merci beaucoup Loïc, c'est la mi-temps en Espagne, première journée de Liga, ça joue entre Valence et l'Atlético qui mène 1-0, c'est Correa qui a marqué pour les Colchoneros. Ça va débuter, ça vient de débuter même d'ailleurs, entre Palace et Liverpool, match à suivre d'ailleurs sur RMC Sport. Tiens, il y a un petit résultat également en Serie A, entre l'Atalanta et Frosinone, et l'Atalanta qui mène 1-0 après une demi-heure de jeu. Petit rappel des résultats de Ligue 1, puisque ça s'est terminé hier soir avec cette victoire de Nîmes 3-1 face à Marseille. Dans quelques instants, vous aurez l'avis tranché de Jonathan Macardy qui concernera l'Olympique de Marseille, justement. Toulouse a battu Bordeaux 2-1 au cours de cette deuxième journée. Strasbourg-Saint-Etienne, 1-1. Montpellier a battu Amiens 2-1. 1-1 entre Caen et Nice. Dijon a battu Nantes 2-0. Victoire de Rennes 1-0 face à Angers. Pas de but entre Monaco et Lille. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 à Guingamp. Et Lyon s'était incliné à Reims vendredi soir. 1-0. On passe aux avis tranchés, les gars.
Allez.
On y va. Et on commence par toi, Jonathan Macardy.
Merci. Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pains, assume et fais-le à fond.
C'est vrai. C'est totalement.
Tiens, et je vous conseille le podcast de l'after d'hier, cette passe d'armes entre Jonathan McCarty et Sami Traoré, qui s'est poursuivi d'ailleurs en backstage après l'after hier.
Moi, je l'aime bien, Sami, en plus.
Ah ouais, tu l'aimes bien. Avec les menaces qu'il t'a faites, t'as intérêt à l'aimer bien.
Avec les menaces. Quelles menaces. Je prends avec un bras dans le dos. Arrête. Hop.
Ça y est, continue. C'est quelqu'un. Alors Jonathan, défaite hier de l'OM 3-1 face à Nîmes. Nîmes, rappelons-le, de retour en Ligue 1 26 ans après. Et toi, tu réclames des réactions à tous les niveaux du côté de Marseille.
Oui, parce que bon, alors pour commencer, au lendemain de cette défaite qui, faut le dire, a été surprenante, on entend tout. Alors c'est la défaite, il y a de l'affolement, des cris d'alerte. Marseille, j'ai même entendu aujourd'hui, Marseille a régressé juste après la défaite, une défaite en début de saison sur un match et blablabla. Moi, le sens de mon avis tranché, c'est de dire, après cette première défaite face à Nîmes, faut pas en tirer d'enseignement péremptoire, mais il faut réagir. Qu'est-ce que je veux dire par là? On sait tous, on va récapituler, c'était le deuxième match de la saison. On est en plein début de saison. Physiquement, les Marseillais n'y sont pas encore. Il y a beaucoup de joueurs, les mondialistes surtout, qui, ils ont repris plus tard, ils sont pas encore dedans physiquement. Je pense que ça va monter en puissance. On sait que Marseille, c'est une équipe qui va être préparée pour jouer l'Europe. Donc forcément, je pense qu'au niveau de la préparation physique, c'est un petit peu décalé par rapport à ces équipes qui viennent de monter, qui elles sont toutes fraîches, qui sont plein gaz et qui ont de l'envie en revendre. Donc je pense que c'est hier le match, voilà. C'est un match qui a été raté, totalement raté. Il y a pas de souci là-dessus, mais il y a quelques circonstances qui peuvent l'expliquer. En revanche, là où je veux tirer la sonnette d'alerte, la sonnette d'alarme plutôt, c'est que
il y a sonnette d'alerte, c'est pas mal aussi.
Ouais, OK. Pas mal, ouais.
Arthur Robert me dit on la garde pour un éventuel jingle prochainement.
Pas mal, OK. Alors là où je veux tirer la sonnette d'alarme, c'est que je pense qu'il y a deux niveaux d'inquiétude à avoir concernant l'Olympique de Marseille. Le premier, c'est concernant le match d'hier, du point de vue de l'attitude. Je parlais de l'attitude de joueurs et de l'attitude du coach. Quand je parle de l'attitude des joueurs, j'ai vu certaines attitudes un petit peu condescendantes comme Adil Rami qui se permet de faire une talonnade en plein milieu de sa surface de réparation, comme Char qui, on sait qu'il vient d'arriver, qu'il est pas au point physiquement, qu'il découvre un nouveau championnat, un nouveau club, mais qui sur le second but nîmois marche pour se replacer. Je veux aussi parler de la troisième blessure musculaire de Steve Mandanda en 6 mois. Je pense qu'il y a peut-être quelques soucis, quelques questions, quelques interrogations à avoir quant à son hygiène de vie. Et quand je veux parler d'un problème, d'une petite alerte au niveau de l'attitude, je parle aussi de l'attitude du coach, de Rudy Garcia, qui dans sa composition d'équipe, avec la composition d'équipe d'hier, elle était beaucoup, il y avait beaucoup trop de concettis dedans, avec des changements dans le 11 qui étaient pour ma part incompréhensibles. Je pense que le fait de changer cette charnière centrale qui avait si bien marché au premier match, Gustavo Camara, et de mettre Rami Char, c'était un petit peu suicidaire. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème sur le match d'hier, sur le point de vue de l'attitude. Quand je parle aussi du niveau institutionnel, je pense qu'il y a aussi quelques petites choses à régler. Alors on a beaucoup parlé tout l'été du mercato qui cette année est un petit peu particulier. T'as le mercato anglais qui a fermé plus tôt, le mercato italien qui a fermé plus tôt. Donc ça fait que tous les autres championnats ont été un petit peu bloqués. On s'attend maintenant à ce que les transactions, notamment en Ligue 1,
ouais, c'est un jeu de poupée,
ça démarre maintenant. Ouais. Exactement. Donc on a été clément, on a dit faut être patient à cause de la conjoncture, mais maintenant faut s'activer. T'as clairement besoin d'un numéro 6 et d'un autre latéral gauche. Donc là, pour moi, je pense qu'il est impératif de recruter pour venir lénifier les turpitudes qui provoquent la structure actuelle de l'effectif qui est bien trop faible. Qu'est-ce qu'il y a?
Ah, l'expression, frérot, il est fou, il nous a tous perdus là.
Donc du coup, je pense qu'il est impératif de recruter parce que l'effectif est trop court.
Voilà.
L'effectif est trop court.
Voilà.
On est l'after.
Là, je te suis.
Donc moi j'espère juste que cette défaite elle va opérer comme un véritable retour au réel pour l'ensemble de l'OM à tous les étages, à l'étage sportif et à l'étage de la direction. Donc j'ai envie de citer, sachez que ça va vous faire marrer, mais j'ai envie de citer Publius Sirius qui était un grand poète de la Rome antique.
Super joueur de la Rome.
Exactement. Qu'est-ce qu'il disait? Écoutez bien, ça va vous plaire. L'orgueil est une lèpre incurable et commune à tous les parvenus qui exaltent la fortune. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux que l'Olympique de Marseille ne tombe pas dans un espèce de péché d'orgueil. Par rapport à la saison dernière, la saison dernière, enfin du moins la deuxième partie de saison dernière, elle a été magnifique. L'épopée européenne, ça jouait, il y avait des buts, on en a vu, on s'est vraiment régalé en voyant l'OM l'année dernière. Et je pense que il faut pas juste, l'OM ne doit pas se reposer sur ses lauriers et doit maintenant agir en conséquence. Les joueurs doivent être prêts à remettre le bleu de chauffe. La direction doit être prête à agir. Il y a eu 30 millions qui sont rentrés avec la vente de Zambo Anguissa. Il faut plus traîner. Il y a des manques qui sont criants dans cet effectif-là. Tout le monde parle du numéro 9. Et moi, je suis d'accord avec Rudy Garcia. C'est pas forcément à ce poste-là qu'il faut recruter. Mais j'ai dit que les deux postes, et je le maintiens, c'est numéro 6 et une doublure, voire un concurrent vu son niveau actuel à Jordan Amavi. Et voilà.
par rapport au match d'hier, il y a pas non plus de drame à en faire, mais faut quand même agir maintenant. L'OM a une belle équipe avec de la qualité, mais elle pourra pas prétendre au podium sans remettre, et là pour citer d'autres philosophes cette fois plus marseillais, sans remettre la furie et la foi de l'année dernière.
Ça y est. OK. Comme dirait Maître Gims, si ça vous gêne, bah c'est la même. Tu penses quoi de l'avis de Jonathan? Alors, juste un truc Jonathan, pour préciser un petit peu ton avis tranché quand même. Selon toi, et d'ailleurs on vous a posé la question, hein, Valérie qui vous a fait un sondage sur le compte Twitter de l'After, supporter marseillais, où attendez-vous le plus de changements, d'évolution, peut-être d'ailleurs de réaction aussi chez les joueurs, l'entraîneur ou chez les dirigeants? Toi, si tu devais citer, pour toi c'est vraiment les trois?
Les trois.
C'est horizontal.
C'est les trois.
Il y a quand même une hiérarchie dans tout ça. Il y a des responsabilités qui sont pas les mêmes.
Je pense que les joueurs, c'est leur méforme, enfin leur contre-performance d'hier s'explique surtout parce que je pense que l'équipe n'est pas prête physiquement. Florent Thauvin, Adil Rami, même Steve Mandanda a repris Toto, Char pareil, Sakai, j'ai jamais vu faire un match aussi pourri que celui d'hier. Je pense que Rudy Garcia, lui, il a quand même deux trois remises en question à se faire sur le match d'hier aussi, dans sa composition d'équipe. Mais là, si tu veux vraiment que je sorte un coupable principal entre guillemets, avec des gros guillemets autour du mot coupable, je pense que la direction maintenant, il faut agir. Il faut agir. T'as l'argent de Zambo qui est rentré, t'as les deux marchés italiens et anglais qui sont terminés. Donc c'est bien. Il y a le petit ailier gauche Radonjić qui va arriver parce que Rudy Garcia manque de solutions offensives sur le banc pour faire des changements au cours de match. Mais maintenant, il faut vraiment recruter et je pense que le numéro 6 aurait pu être recruté avant.
Sam, ton avis toi là-dessus?
Tu vois, Jonathan, je t'ai écouté vraiment attentivement. Je sais l'amour que tu as pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Tu le cries assez souvent et même quand tu le cries pas, tu le dis. Donc pour moi, tu vois, je te trouve, tu vas pas assez loin. Parce que pourquoi? Pour moi hier, l'Olympique de Marseille a été mauvais, nul. En dessus de
ça, on l'a dit, ouais.
Non, mais tu, il faut le dire parce que tu l'emploies avec des mots, je sais pas, des philosophes romains là. Moi, je comprends.
Non, mais ça c'était à la fin. On l'a dit. C'est que t'as pas écouté. On l'a dit. Quand même.
Si, ouais. Bon.
Et hier, on les a assassinés.
Ah bon.
Mais où tu veux en venir?
Je veux en venir que cette équipe, c'est facile toujours de prendre ces excuses là. Ils sont pas prêts. Il y a ceci, cela. Moi, la semaine dernière, j'ai vu un match, l'Atlético Real. Pourtant, des mecs qui ont vraiment joué, qui ont vraiment eu un temps de jeu.
Il y en avait des mondialistes aussi.
Il y en avait, ils ont joué. Et j'ai vu des mecs se lever.
Bien sûr.
Voilà, ils ont vraiment transpiré, ils ont vraiment fait quelque chose pour le maillot, ils ont joué
pour leur club. Mis l'accent sur le fait qu'il y avait un problème d'attitude.
Non mais bien sûr, hier l'Olympique de Marseille n'a pas respecté le football. Ils n'ont pas respecté l'équipe qui avait en face,
qui était très bonne.
Bien sûr qu'elle était très bonne. Pourquoi? Mais c'est normal. Quand tu fais une Coupe du monde, en plus t'es champion du monde, que t'as fait des clubs merveilleux, pour toi les tubes, les ripères, c'est qui pour eux? Donc tu viens un peu en ballerine sur la pointe des pieds, te dire
pas jusque là.
Tu parles d'attitude, c'est ce qu'on a vu hier.
Oui,
on a vu une équipe,
l'équipe a été quelquefois nonchalante
et en plus
a manqué de conviction et d'engagement.
Oui,
mais j'irai pas non plus jusqu'à les assassiner à ce point-là.
Ah mais qu'est-ce que tu attends toi? Mais tu me surprends, Jonathan. Attends,
ça
mais
arrive.
On attend une meilleure attitude d'une équipe qui est finaliste quand même de l'Europa League. On veut voir autre chose. Je veux dire, c'est pas normal.
Pour toi, c'est les joueurs les fautifs, Sam.
Mais forcément, parce que je j'ose pas croire que ce qui est quand même à la causerie que Garcia a dit, les gars. Oh,
non mais Sam,
allez-y doucement.
Je vais donner juste un exemple sur la composition. Quand je dis que Garcia aussi sa part de responsabilité, regarde, t'as le match contre Toulouse où t'as une charnière qui performe très bien, Luis Gustavo avec Bouba Camara. Bouba Camara en plus il est frais, il a fait l'Euro U19. Bouba Camara après Dimitri Payet sur le match de Toulouse, c'est le meilleur joueur de l'OM. Je pense que lui, tu vois, il a l'énergie à revendre, il est en pleine bourre. Et là, il change totalement sa charnière centrale en mettant deux joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, un joueur qui a 33 ans, il me semble, qui va donc avoir besoin de plus de temps pour se remettre dans le bain, il associe un jeune qui vient d'arriver dans un nouveau pays, nouveau championnat, nouveau club, qui n'a aucun automatisme. Ça, c'était totalement suicidaire. Donc je pense qu'il y a des joueurs aussi, je suis d'accord, qui ont leur part de responsabilité, et ça m'a pas plu du tout, la petite talonnade d'Adil Rami dans la surface, ça c'était n'importe quoi, et je veux plus jamais le revoir. En revanche, dans la composition d'équipe, je pense que il y avait mieux à faire.
Alors,
et que l'effectif reste quand même très très court. Il y a que 20 joueurs à l'entraînement.
C'est un combat, c'est un affectif. C'est un affectif, Garcia. Pourquoi? Parce que là, il a remis ses hommes. Mais ses hommes sur ce match-là l'ont plus ou moins déçu.
Bouba Camara, c'est si tu parles d'affect, je t'invite juste à écouter l'intervention de Rudy Garcia sur le fossé 1 quand il parle de Bouba Camara. Il a des étoiles plein les yeux. Je pense juste que il a voulu tenter quelque chose. Il a voulu croire que cette charnière serait prête tout de suite.
Il savait très bien que les mecs n'étaient pas prêts.
Juste une chose quand même pour mettre d'accord. Il y a ce fameux sondage donc qui est sur le compte Twitter de l'After. Pour l'instant, vous êtes 78% à répondre que ce sont les joueurs qui sont responsables hier. 10% répondent l'entraîneur, 12% répondent les dirigeants pour l'instant. Donc voilà, toi tu réclames des réactions à tous les niveaux. Pour les supporters de l'OM, les afteriens, c'est visiblement les joueurs qui sont responsables.
Je vous rappelle juste qu'il y a que 20 joueurs à l'entraînement à l'OM. Ça fait quand même court.
Non mais en plus, quand tu dis que moi je crois vraiment que c'est urgent de prendre quelqu'un offensivement, qu'il faut vraiment un finisseur.
Bah, il arrive là.
Rudy Garcia dit qu'il veut un milieu de terrain.
Mais c'est là où tu te trompes, tu te fous le doigt dans le tapis. T'as pas vu les matchs de prépa de l'OM. Mitroglou a été bon.
Mais qu'est-ce que tu me parles des matchs de préparation?
C'est pas la priorité.
C'est pas la réalité. Les matchs de préparation.
La réalité,
c'est ce qu'on a vu.
C'est que t'as deux avant-centres et que t'as des trous béants dans l'effectif. T'as des trous béants au milieu de terrain parce que si Gustavo se blesse ou doit être amené à jouer en défense centrale, et ben t'as plus de numéro 6, t'as que Morgan Sanson et Maxime Lopez, et Jordan Amavi, il a pas de remplaçant et il est nul en ce moment. Enfin, en ce moment, ça dure un petit peu. Donc, je pense que un numéro 9, s'il arrive, c'est très bien, mais ça doit pas être la priorité.
C'est pas la priorité, parce que tu gagnes comment? Qui est-ce qui va marquer ton numéro 6?
Je te rappelle le nombre de buts que l'OM a mis l'année dernière avec Mitroglou qui avait pas de préparation dans les pattes.
On a donné les stats, c'est vrai qu'on a donné les stats hier. Quand Rudy Garcia explique, faites la saison
avec l'année dernière.
Rudy Garcia se dit, l'année dernière, on a claqué 80 buts en championnat, c'était pas arrivé depuis les années 70. Je garde finalement les mêmes joueurs, même Sinji est peut-être sur le départ, et il fait pas partie des 6 meilleurs buteurs de l'OM de la saison dernière. Il se dit, je prends les mêmes et je recommence. Mais t'as le droit de pas y croire.
Moi j'y crois pas, mais attends, l'année dernière c'est fini. C'est comme moi, il y a 20 ans, je sortais avec Miss Monde, et maintenant c'est fini.
Alors, c'est vrai?
C'était comment? En plus, c'est des conneries, c'est même pas vrai.
Je vais dire, l'année dernière c'est fini, je crois qu'il faut urgemment un finisseur, parce que Germain, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est un joueur qui a certainement énormément de qualité. Mais on voit bien un peu ses limites, c'est tout.
Voilà.
On accueille Frédéric, messieurs, il est supporter de l'OM.
Ah oui,
il nous a appelé au 32-16, il est en direct avec nous dans l'after. Salut Frédéric.
Salut à vous.
Salut Frédéric.
Là, je vous écoute. Je suis. Alors, c'est. En fin de compte, c'est. Je sais pas comment vous pouvez vous parler comme ça, honnêtement.
Bah vas-y, dis-nous.
J'entends exactement les mêmes propos que vous teniez en début de saison de l'année dernière à l'Olympique de Marseille, quand on avait joué à Rennes, qu'il y avait eu 3-4 matchs. Mais attendez, il y a eu 2 matchs. C'est vrai que sur l'engagement ou n'importe quoi, il y a des écarts de forme, mais il y a 2 matchs. Si vous tenez ces propos, quand j'entends dire qu'on n'a pas fou le football, mais vous
avez d'accord avec toi, moi, Fred.
Depuis vendredi, vous avez parlé de Lyon, qui a bafoué le football à Reims.
Absolument.
Vous en avez parlé.
Et
pourtant, c'est exactement la même chose.
Mais on l'a fait, Frédéric.
Fred, je suis d'accord avec toi.
On va même en reparler ce soir.
On le fait pas à même dose, parce qu'Olas, il monte au créneau tout de suite, si jamais c'est le cas.
Bah, et puis alors, tu sais que si Olas nous met la pression, nous direct, on met la queue entre les jambes.
Maintenant, quand vous êtes en train de dire qu'il faut ceci, il faut cela, c'est maintenant que vous allez voir le joueur, comme vous avez dit. Vous avez dit, il y a le championnat anglais qui a commencé, le mercato c'est fini, l'Italie c'est fini. C'est normal. Balotelli, je vais vous dire quelque chose. Moi je suis sûr que c'est un truc, comme il est suspendu 3 matchs, de toute façon c'était pas une urgence.
Exactement.
Ils ont dû avoir un accord, ils ont dû attendre pour le tirer le maximum, parce que c'est facile de dire il faut ça, mais il faut de l'argent, ok? Et je suis certain aussi qu'un grand numéro 6 va arriver, et un arrière latéral gauche, pour donner un peu de pression sur ma vie, va arriver aussi. Et une fois qu'on aura tout ça, que vous teniez des propos comme vous êtes en train de tenir, je suis tout à fait d'accord. L'envie, ce qui a manqué à cette équipe hier, c'est l'envie. Bon, on est arrivé dans les intérêts où il n'a pas
que, Fred, je te coupe, mais pas que l'envie. Physiquement, j'insiste aussi dessus.
Mais bien sûr. Surtout les mécanismes, d'ailleurs.
Frédéric, est-ce que tu veux dire par là que finalement, cette défaite, elle tombe plutôt bien? C'est une piqûre de rappel, une remise en question, les entrées, c'est ça?
C'est la claque, le prochain match, quand ils vont venir au Vélodrome.
Ça doit être une claque. Et en plus, t'as le même enchaînement que l'année dernière, t'as Rennes et Monaco.
Exactement.
C'est le moment de laver la fronde l'an dernier.
Et puis, je vais vous dire une chose. Ils savent très bien qu'à Marseille, par rapport à d'autres clubs, comme Bordeaux, comme Lyon, où on est un peu plus patient qu'à Marseille. À Marseille, s'il y en a 2-3, il y a 2-3 échecs consécutifs ou n'importe quoi, ça peut devenir un incendie. Donc, les joueurs, ils se connaissent, ils sont de Marseille depuis, c'est la même équipe qui jouait l'année dernière.
Fred,
ils savent très bien que s'ils perdent contre Rennes, c'est le feu.
J'ai une question. Parce que j'ai entendu, alors Sam aussi allait dans ce sens-là, j'ai entendu aujourd'hui et hier soir tout le monde dire Marseille s'est affaibli. Mais en quoi Marseille s'est affaibli?
Ils se sont pas affaiblis.
les joueurs les plus importants sont tous restés.
Bah non, tu perds Zambo, tu perds quoi?
Tu disais tout à l'heure, tu perds Zambo
et tu parlais du problème du milieu de terrain, tu l'as pas remplacé Zambo aujourd'hui.
On va voir, le mercato n'est pas terminé, mais si Zambo est remplacé,
oui, mais donc
Marseille sera pas
attendez les gars, objectivement parlant. Très objectivement parlant. Alors justement, tu perds Zambo, tu gardes la même équipe, tu as perdu un joueur, tu recrutes personne, tu t'es affaibli.
Non, parce que numériquement, tu as un autre défenseur central qui, même s'il a été catastrophique,
tu perds Rolando, il est blessé.
Pas mal.
Tu perds Rolando, il est blessé. Donc numériquement, c'est pas bien même.
Et puis on a un autre ailier qui va arriver.
Non mais attends, t'as Mandanda. Il a un niveau.
Non mais attends. Terminé.
Mais affaibli. À ma vie.
Un homme de l'instant, toi.
À ma vie, il est en train de se perdre un peu.
Là, je suis d'accord avec Sam. Parce qu'à ma vie, depuis sa blessure, il a pas fait un match correct.
Non, mais il va revenir.
Frédéric.
Mais je vais vous dire un truc au milieu de terrain. Je suis sûr qu'il va vous prendre un joueur, un numéro 6 pur qui va arriver. Il va y avoir un arrière latéral. Moi, je me fais pas de soucis.
Morgan Schneiderlin.
Exactement. Un type comme Morgan Schneiderlin. Mais c'est pas mauvais. Vous rigolez de lui. Il est pas mauvais.
Moi, c'est la recrue parfaite pour l'OM. En plus, il est supporter de l'OM. C'est la recrue parfaite pour l'OM.
Et c'est un vrai défensif. C'est-à-dire que c'est pas un type qui va vouloir faire de la création parce qu'à la limite,
il est dur physiquement.
Exactement. On a Sanson. On a même le petit Lopez.
Maxime Lopez.
Qui peut faire de la création. Mais on n'a pas un joueur pour aider.
Frédéric, moi j'entends tes arguments, mais c'est vrai que finalement, il y a un auditeur qui nous disait ça hier, d'ailleurs je crois même que c'était sur le hashtag RMCLA, vous continuez de réagir d'ailleurs, il nous disait d'ailleurs très justement, finalement, le mercato de cet été, il ressemble beaucoup au mercato de l'année dernière à certains postes, c'est-à-dire que Marseille se réveille finalement très tard, et puis les points qu'ils perdent là, bah, c'est peut-être les points qui vont leur manquer à la fin de la saison pour se qualifier en Ligue des Champions. Est-ce que toi tu déplores pas le fait que le départ de Zambo, par exemple, n'ait pas été anticipé?
Ça, je suis d'accord.
Est-ce que tu déplores pas le fait qu'ils perdent autant de temps avec le dossier Balotelli et que tu démarres ta saison et qu'il y a des joueurs à des postes clés qui sont pas encore là, Frédéric?
Mais on perd pas les arrières Balotelli, il aurait pas joué de toute façon, qu'est-ce que vous dites? Il aurait pas joué.
Mais d'accord, mais il aurait été là, Frédéric, ça que je veux dire.
Il aurait pas été sur le terrain. Par contre, je vous expliquer, moi quand même une chose, me dites là, vous m'avez même parlé de comment il s'appelle, du défenseur central de du Brésilien, là, comment il s'appelle, qui s'est blessé. Non, celui qui s'est blessé.
Rolando.
Portugais, oui. Et vous me parlez d'Anguissa en début de saison l'année dernière. Vous rigoliez quand vous parlez d'Anguissa et de Rolando, hein.
C'est vrai.
Oubliez pas, ça, les journalistes.
Oui, mais enfin, ils t'ont fait du bien, le reste de la saison.
Ah, ils t'ont fait du bien, mais en début de saison, vous avez rigolé de la moitié de la saison.
Moi, je trouve que avoir vendu Zambo et ne pas avoir Rolando à disposition, ça veut pas dire que l'équipe s'est affaiblie. L'équipe est loin de s'être affaiblie. Je trouve que l'équipe a gardé ses joueurs clés, ce qui est très bien. L'équipe a un défenseur central qui, à mon avis, on l'a vu, en Ligue Europa, elle a joué contre l'OM, qui, à mon avis, apportera une plus-value sur le moyen terme à l'OM, donc sur ce secteur-là qui était la priorité. L'OM s'est renforcé. Numériquement, t'as un ailier en plus, donc l'OM s'est renforcé. Moi, je trouve ça totalement ridicule que l'OM s'est affaibli.
Deux secondes juste, on va y retrouver Loïc Braillet. C'est terminé entre la France et l'Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde féminine, Loïc, des moins de 20 ans.
Ouais, exactement. Et les larmes des Françaises, donc, qui s'inclinent en demi-finale, 1-0 face à ces Espagnols. La buteur, c'est Guy Jalo. Alors, le but est arrivé de façon un peu bizarre à un centre qui a été plus ou moins contré. La gardienne française a été prise à contre-pied. Il y a eu ce carton rouge contre les Espagnols, qui était donc en infériorité numérique durant un bon quart d'heure à la fin de match, mais elles ont tenu jusqu'au bout. Japon, Espagne pour cette finale donc qui aura lieu ici même au stade de la Rabine à Vannes de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et même si les pleurs sont sur tous les visages françaises, et bien sans doute que Corinne Diacre, la sélectionneur des A, qui est en train de peaufiner sa réflexion en vue de sa liste pour le mondial l'année prochaine, a dû peut-être repérer quelques éléments qu'elle pourrait intégrer dans cette liste là. Mais il n'y aura pas de finale donc pour les jeunes françaises.
Merci beaucoup Loïc. Bonne soirée à toi Loïc. On part faire un petit détour du côté de Metz. Quatrième journée de Ligue 2, ça joue entre Metz et Ajaccio, Sébastien Ruffet.
Ouais, 38 minutes de jeu et loin de moi l'idée de vouloir lénifier les turpitudes, mais pour l'instant toujours 0-0. Oui, je prends des notes, hein, j'écoute et j'apprends.
Vous avez deux heures.
Toujours 0-0, c'est un bon match de haut tableau de Ligue 2, hein. Clairement, ce soir, on a vu surtout un très très bel arrêt du gardien ajaxien Leroy tout à l'heure sur un centre vers Boulaya qui était à 2 mètres du but. Il a repris ce ballon, c'était cadré et l'arrêt réflexe magnifique du gardien ajaxien pour garder sa cage. Mais donc toujours 0-0 entre Metz et Ajaccio alors qu'il reste 6 minutes dans cette première mi-temps.
Et 20 minutes de jeu en première ligue entre Crystal Palace et Liverpool, 0-0 pour l'instant. Et Valence vient d'égaliser face à l'Atlético de Madrid. Le buteur Rodrigo, on est à la 60e. On était avec Frédéric, supporter de l'OM. On est en plein dans la vie tranchée de Jonathan Macardy qui réclame des réactions à tous les niveaux du côté de l'OM. Tu allais dire ça.
Non mais je voulais dire, c'est pas parce que Balotelli n'allait pas jouer les trois premiers matchs que c'est interdit qu'il vienne, qu'il s'habitue à ses coéquipiers, qu'il y a une cohésion de groupe à faire. Mais je veux dire, ça c'est pas une raison.
C'est même pas tant ça, c'est que si tu te concentres sur ce dossier, ça veut dire que les autres, tu les investis pas.
Comme t'as fait l'année dernière sur Vincent Aboubakar. Ouais, au final, tu prends Mitroglou. Voilà. Mais moi, je maintiens le poste de numéro 9. S'il y a un autre 9 qui vient, c'est très bien, mais c'est pas la priorité. Et je pense que il y a des joueurs qui vont performer.
C'est quand même curieux parce que Jonathan, tu pensais pas ça il y a 3 semaines avant.
Ah bah
que,
si. Si.
Bah mais non, parce que il a fallu que Garcia le dise comme ça pour vous embrouiller un peu vous les supporters.
Excuse-moi, je ne me fais pas tenir des propos que j'ai jamais tenus. Je dis depuis le début de l'été que je pense que Mitroglou va mettre sa quinzaine de buts.
Ah oui, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut lui laisser sa chance.
Moi, à la rigueur, je pense que si il y a un autre neuf qui vient et que Valère Germain part, ça sera gagnant-gagnant et pour Valère Germain et pour l'OM. Mais s'il n'y a pas d'autre numéro 9, c'est pas grave. Ça, c'est pas la priorité.
Ah, tu crois que alors comme ça, ça va tenir?
Ah, moi, je pense que comme ça, ça peut, s'il y a un numéro 6, c'est un latéral gauche, tu joues le podium, sans problème.
Moi, je trouve, enfin, sur le match de hier, je trouve que c'était l'Olympique de Marseille a manqué de combattants. Moi, je trouve que c'est une équipe qui manque peut-être un peu de combattants.
Alors que l'année dernière, qu'est-ce qu'on disait de l'OM? Que c'était une équipe de combattants. Donc il faut qu'ils se remettent. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. C'est qu'il faut qu'ils se remettent d'alerte. Ouais, la sonnette d'alerte. Il faut qu'ils se remettent dans le bain. Mais c'est une équipe. Tu vois, l'année dernière, tu pouvais leur reprocher beaucoup de choses techniquement, mais pas d'avoir la grinta. Hein.
Et réveil attendu dès dimanche pour Marseille. Ce sera face à Rennes. Match à suivre à partir de 20h d'ailleurs sur RMC. Ensuite, ils iront à Monaco, ils recevront Guingamp et ils iront à Lyon. Remercie Frédéric qui nous a appelé au 32-16. Supporter de l'OM. On revient dans quelques instants. On va vous donner des news de Steve Mandanda. On va vous donner des news sur le dossier Balotelli. Le président River était l'invité tout à l'heure de Team Liga. Et il a parlé du dossier Balotelli. On y revient juste après ça avec Jonathan Macardy, Samy Poix. Et vous au 32-16 et sur l'hashtag RMC Live. A tout de suite.
RMC, le football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Samy Poix et de Jonathan Macardy, on est en plein dans la vie tranchée de Jonathan Macardy qui concerne l'Olympique de Marseille qui s'est incliné hier 3-1 face à Nîmes. Mais avant messieurs, ça bouge à Metz entre Metz et Ajaccio, quatrième journée de Ligue 1, Sébastien Ruffet.
Et ouais, ça bouge avec le but du FC Metz à l'instant, 42e minute, le très bon centre venu de la droite de Jantz et c'est Diallo qui s'impose de la tête au deuxième poteau, rien à faire pour Benjamin Leroy. Diallo, son 6e but déjà en 4 journées après, il est vrai, un quadruplé contre Orléans. L'attaquant efficace du FC Metz et qui permet donc à Metz de virer en tête peut-être à la mi-temps d'ici 1 minute 30. 1-0 donc pour Metz face à la Ajaccio.
Ouais, ils sont bouillants les Messins en début de saison.
Pas comme François Pinet à mon petit gazon.
Bah pas comme moi non plus, hein, parce que tu m'as mis ce week-end.
Et t'as vu que j'en ai pas parlé.
Hein?
J'en ai pas parlé, non, par amour.
Bon, en même temps avec l'équipe que j'ai. Enfin bref. Messieurs, des news également de Steve Mandanda. Vous savez qu'il est sorti sur blessure hier face à Nîmes. Le verdict, le diagnostic est tombé aujourd'hui. Le gardien de l'OM qui souffre d'une déchirure des ischios jambés, il en a pour un mois d'arrêt. Steve Mandanda. Alors c'est vrai que depuis son opération il y a 2 ans, il a tendance à faire pas mal de rechutes quand même, Steve Mandanda. Ah,
c'est 3 blessures musculaires en 6 mois, c'est quand même beaucoup. Alors Sam, je sais pas, toi qui as été joueur, mais
comment l'explique ça, Sam?
Est-ce que l'hygiène de vie ne joue pas là-dessus quand même?
Très certainement, mais il faut se rappeler que il est parti.
Bon, après, t'as des infos toi sur son hygiène de vie?
Après, faute à pas de chance aussi. Mais après, il était à Crystal Palace pendant pratiquement un an.
Ouais, il fait 6 bons mois. Ouais.
Voilà, il a pas joué.
Non, mais c'est un choix du coach.
Voilà, mais il a pas joué.
Ouais.
D'accord. Est-ce que peut-être ça a des répercussions? Le fait de pas avoir joué, peut-être que
manque
là,
de rythme, tu veux dire?
Peut-être, il y a peut-être ça, il y a eu un manque de quelque chose qui fait qu'il y a eu un déséquilibre quelque part. Maintenant que ça devient un joueur qui joue pratiquement tous les week-ends, peut-être que c'est peut-être dû à ça aussi, ses blessures. Peut-être.
L'âge aussi, non? Est-ce que ça joue, ça, vraiment? Parce qu'il y a des joueurs, on le voit, alors, on pense à Buffon. Le gars est pas blessé, il a 41 ans, il est tout frais encore.
Aussi.
Ouais, il y en a plein.
Exemple, ouais.
Ben, là, je peux venir en compte aussi, hein, mais quand tu vois mais il faut se connaître, hein, il faut vraiment prendre soin de son corps, parce que quand tu vois.
C'est beau quand tu dis ça, il faut prendre soin de son corps.
Comme un Cristiano Ronaldo, quoi. T'as vu Cristiano Ronaldo?
Tu prends soin de ton corps, toi? Oh,
non, parce que Jonathan, il peut le faire. Prends soin de ton corps.
Vas-y, donc. Du corps de vos femmes, ouais.
Vissement, visiblement.
Ah non.
Plutôt, ouais. Tu veux pas parler du passé, ça.
Ah, là, là. Non, non, mais après, effectivement, mais je sais pas. Après, c'est comme tu dis, hein, Nicolas. Moi, je sais pas comment son hygiène de vie. Donc,
c'est quand même dingue. Mais ça laisse autant qu'un joueur de champ, quoi.
Là, t'es dans le fantasme.
Ah, oui,
absolu.
Non, oui, c'est une supposition. Ah, oui, bien sûr. J'ai dit, c'est une supposition.
Tu sais pas.
Ah oui, c'est ce que j'ai dit.
Non, mais
je sais pas.
Il a peut-être une fragilité, ça n'a rien à voir. Abu Dhabi, c'est le mec qui a l'hygiène de vie la plus saine du monde. Uh-huh. Il est blessé.
Ouais, en tout cas, pareil pour Gourcuff.
Peu importe la cause, c'est que 3 blessures musculaires en 6 mois, c'est des blessures d'un joueur de champ fragile.
Voilà,
c'est quand même,
voilà,
c'est quand même assez curieux. Et même le fait de le remettre là d'entrée dans le 11, je pense que
mais est-ce que là
peut-être pas si utile que ça, quoi.
Est-ce que le médical n'a pas failli là en peu de temps?
Peut-être, c'est peut-être trop tôt. J'ai même ajouté autre chose. Je pense que peut-être, hein. C'est une supposition.
C'est l'hygiène de vie du médecin.
Non, mais je pense que si les Marseillais ont autant insisté pour conserver Johan Pelé cette saison, qui pouvait partir dans un autre club,
parce qu'ils sentaient que
je pense, ouais, je pense que je ça, je me demande, enfin, je me demande si c'est pas pour ça.
Bon, ouais.
Ils ont vraiment insisté, hein.
On évoquait également il y a quelques instants le cas Balotelli. Jean-Pierre Rivère, le président de Nice, était l'invité d'RMC de Team Duga tout à l'heure. Il s'est exprimé sur le cas de l'attaquant italien, un dossier qui est très sensible, dit-il. Écoutez-le.
C'est un dossier qui est en cours. Donc très sincèrement, je suis navré parce que je sais que tout le monde veut savoir ce qui va se passer sur Mario Balotelli. C'est très compliqué de gérer un club si en plus on doit penser à la gestion de ce club. Chacun fait ce qu'il veut dans son club. J'expliquerai tout ça à la fin. Pour l'instant, je prends un droit de réserve parce que, voilà, mais personne ne s'accroche sur quoi que ce soit. C'est déjà compliqué, je ne voudrais pas en rajouter.
C'est quand même fou, hein. On est le 20 août, c'est-à-dire on le sait depuis la fin de la saison dernière que Mario Balotelli a un gentleman agreement avec ses patrons, et on en est toujours là dans le dossier Balotelli. Alors, bah, on peut se mettre à la place des dirigeants niçois, c'est vrai que ça va être difficile de communiquer là-dessus. Hein.
Eh bien sûr, mais pourquoi ça coince? Tout le monde le sait. C'est que Raiola demande une commission XXL, et que moi je trouve que les dirigeants marseillais ont la très bonne attitude de baisser le froc et de donner les 3-4 millions d'euros à Mino Raiola. Il a été expliqué que ces 3-4 millions d'euros de commission, ça représentait une année de masse salariale pour le personnel administratif de l'OM, donc ce qui est quand même assez important. Donc voilà, c'est pour ça moi je pense que Balotelli il ferait du bien à beaucoup de clubs, mais que le calcul ça doit être: est-ce qu'on prend Balotelli et est-ce qu'on prend Raiola? Parce que si tu prends Balotelli, tu prends Raiola, et ça veut dire que tous les étés tu vas avoir un bordel sans nom. Donc je sais pas, c'est un calcul à faire.
Moi je crois qu'il faut pas exagérer avec Raiola. Je crois que le président Rivère, je crois plus ou moins qu'il a la dent dure ou la quelque chose en priorité avec les dirigeants marseillais. Moi je crois pas, parce que sinon il le dirait ouvertement que bon ben voilà, Raiola pose
c'est
des
pas,
problèmes.
C'est, parce pas, que... c'est pas Rivère, c'est Julien Fournier.
Oui, bon, d'accord. Mais c'est le président Rivère qui était là, qui s'exprimait.
Ouais, mais le problème il est surtout entre Julien Fournier et l'OM. On sait comment c'est terminé entre
Julien Fournier. Ouais, mais il y a pas que ça. Non mais là Jonathan, moi je veux bien qu'on dise que Julien Fournier est parti de l'OM, ça s'était mal fini, c'est pas les mêmes personnes. Oui, c'est un club, c'est pas ça qui va faire que le dossier bloque, tu vois. Là c'est là, tu l'as dit toi-même,
c'est
une histoire. Mais non, mais c'est une histoire d'oseille, c'est pas une histoire.
Ah bah c'est pas c'est je te dis, si Marseille avait accepté de payer la commission de Raiola, ça serait fait tout de suite.
Donc c'est une histoire d'oseille, on est d'accord.
C'est une histoire d'oseille, oui.
Oui, on est d'accord, c'est une histoire d'oseille.
Je rebondissais à ce que Sam disait, mais c'est vrai que les relations entre les deux clubs sont pas au beau fixe.
Mais Sam, on y reviendra également tout à l'heure. Nice, c'est deux défaites pour l'instant après deux journées. Balotelli est toujours au club. Est-ce que tu penses que, toi qui connais bien ce club en plus, même si c'était une autre époque, est-ce que tu penses que ça peut polluer les joueurs de Nice?
Ben, forcément, je sais qu'en début de... Il y a quelques semaines de ça, on a eu Cyprien qui nous disait effectivement que non, ça polluait pas, ceci, cela, mais je suis persuadé que ça pollue forcément, parce que c'est un joueur quand même qui a une bonne image au sein du groupe. C'est un joueur où, actuellement, Vieira, il en aurait cruellement besoin. Pour répondre à ta question, oui, clairement, moi je suis persuadé que ce début de saison est pollué de l'OGC Nice par l'affaire Balotelli.
Et puis ça les bloque, l'OGC Nice, pour recruter un autre avant-centre. Bah... Ils ont perdu Pléa, ils ont perdu Balotelli. Eux, ils ont vraiment besoin de recruter un autre numéro 9. Donc on sait qu'ils ont des vues sur des joueurs italiens en fin de carrière. Bon, j'ai oublié les noms, c'est un petit peu flou, donc on va pas citer de noms. Mais de pas avoir la petite somme d'argent qui rentre dans leur caisse par la vente de Mario Balotelli, ça les bloque cruellement.
Parce que maintenant, moi j'en suis persuadé, Nice verrait d'un mauvais œil qui reste là. Parce que quelque part, avec tout le souk qui a eu, qui partent en loose day voir les dirigeants de l'Olympique de Marseille ou visiter les installations. Attendez, mais qu'est-ce que va penser la brigade, là, les supporters de Nice, la BSN?
Ils étaient colères il y a pas longtemps encore.
Je pense que la colère n'est pas retombée depuis. Surtout avec les mauvais résultats, parce que eux ils vont s'en souvenir. Ils vont se souvenir que ils lui ont tendu la main, ils l'ont bien accueilli, ils ont accepté le fait qu'il n'aille pas jouer à l'extérieur, qu'il était malade, qu'il avait la fièvre, mais qu'on le voyait à San Siro le week-end.
C'est vrai.
Je veux dire, le revoir sur le maillot du 9 des Aiglons, je ne sais pas si le public niçois va
Après,
fortement apprécier ça.
Il y a une question qu'on peut se poser vis-à-vis de Nice, c'était quelle est la logique dans le fait de mettre 10 millions, parce que c'est 10 millions, sur Maolida. C'est quand même beaucoup.
C'est un pari sur l'avenir.
Ouais, mais c'est, est-ce que Nice a les moyens de faire des paris sur l'avenir?
Bah, visiblement oui.
À 10 millions.
Bah, visiblement
parce que,
oui.
Parce que, ouais, mais parce que là, tu te, je sur un poste dans lequel, sur lequel t'es bloqué. T'es quand même bloqué avec Balotelli. Tu sais que Nice a besoin d'un numéro 9.
Mais, non, mais en l'occurrence, ouais. Balotelli peut pas jouer s'il y a bien un poste. En plus, l'attaquant, c'est ce qui coûte cher, hein. C'est con, mais c'est vrai. Mais s'il y a bien un poste dans lequel il doit investir, c'est celui-là.
Ouais, mais c'est un joueur qui est pas fini. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, justement. Oui, mais Nice, est-ce que Nice a les moyens d'acheter des joueurs finis?
Peut-être moins cher, avec un moins de potentiel et moins de potentiel à la revendre, mais qui soit prêt tout de suite, parce que l'équipe là, elle est quand même, moi je la trouve, je la trouve
Nice quand même rarement planté sur le niveau du marché ces dernières années.
Je te dis, hein, moi je le dis toujours, Nice a la meilleure cellule de recrutement rapport qualité prix de Ligue 1. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre un petit peu leur mojo.
Martial n'était pas fini, il est parti à 100 millions. Hein,
ouais, mais Martial, non, compare pas. Martial a des matchs de Ligue des Champions. Martial avait joué en Ligue des Champions. Martial avait joué en Ligue 1. Là, ils prennent un joueur qui a 2-3 matchs de Ligue 1.
Non, mais de toute façon,
c'est pas comparable.
Non, mais Nico, il a raison. C'est le tarif maintenant. Voilà, on parie sur l'avenir. Moi, je suis sûr que Nice va retomber sur ses billes avec lui. C'est un joueur.
Ça, j'en sais rien, moi. Mais
après, non, mais c'est un joueur.
Mais t'as un risque à prendre. T'es obligé.
Mais le risque, il est à prendre. Mais le problème, c'est de prendre ce risque-là en sacrifiant le fait que t'as une équipe qui est pas très complète avec un entraîneur qui est inexpérimenté et dont cette équipe a cruellement besoin d'un
entraîneur. Tu parles de qui? Entraîneur qui est inexpérimenté.
Patrick Vieira.
Oui, il a entraîné aux États-Unis. Ok. Il a jamais entraîné en Europe. C'est sa première expérience.
Il a coaché des jeunes. Ça tombe bien.
Ça veut dire quoi, inexpérimenté? Attends, les mecs, il a combien de matchs lui?
C'est pas un championnat. C'est plus compliqué que ce qu'on veut bien penser.
La Ligue 1, c'est la Ligue 1.
Transition parfaite pour ton avis tranché, qui va venir. Juste une petite réaction sur le hashtag RMC Live. Il y a Richard qui nous dit: rappelez-vous à quel point Leonardo avait lutté avec Raiola pour faire venir Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il est pas simple en affaire, Mino Raiola.
Rappelez-vous aussi pour Thiago Silva, c'était les deux.
Oui,
ouais, mais attention, par contre, les joueurs sont très contents de lui, hein, parce que les joueurs, que ce soit les joueurs ne sont pas mécontents du travail qu'il fait auprès d'eux. Hein.
On va passer à ton avis tranché, Sam. Alors, il est assez global, il concerne les entraîneurs de Ligue 1, tiens, justement. Ouais. Avis tranché de Samy Poix.
C'est bien, les femmes, elles aiment bien les gens sexy, mais elles aiment aussi les hommes efficaces, quoi.
C'était à quelle occasion, ça, dis-moi?
Ouais, en début d'été. En vacances.
Je regrette. Alors toi, mon Sam, ça te plaît de voir des entraîneurs avec des nouveaux profils en Ligue 1? Alors, nouveaux profils, on n'entend pas par là forcément des entraîneurs étrangers, des entraîneurs qui découvrent la Ligue 1, on va dire.
Oui, exactement. Non, moi je suis ravi des nouveaux entraîneurs qu'on voit, la façon que les équipes elles jouent. Évidemment, je sais bien, c'est pour l'instant leurs résultats, ce qu'ils font, c'est un peu anecdotique, c'est les premières journées. Mais moi, sincèrement, je suis franchement ravi, parce que on se posait aussi la question de se dire, est-ce que la méthode Didier Deschamps, vainqueur de la Coupe du Monde, est-ce que ça va être un peu est-ce que ça va donner des idées aux entraîneurs de prendre un peu cette philosophie de jeu? Ben non, on voit que ces équipes là elles en ont rien à faire. Les entraîneurs, ils viennent, ils jouent à l'extérieur comme à la maison, c'est-à-dire qu'ils procurent du jeu. Et en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est ces entraîneurs-là, c'est-à-dire que on va voir des nouveaux joueurs, ils font progresser leurs joueurs. Et en plus de ça, dans ce système de jeu, on va voir, ça va donner envie à des spectateurs de venir encore plus nombreux au stade. Et nous, ça va nous donner la curiosité d'aller voir, d'aller piocher un peu, d'aller voir un peu qu'est-ce qu'ils ont vraiment, ces entraîneurs-là. Moi, sincèrement, quand je vois un David Guyon ou un Blackheart, ceci, cela, franchement, je suis vraiment...
Bah tiens, on va revoir la liste, tiens, justement, des entraîneurs qui débutent en Ligue 1 cette saison. Il y en a 6 cette saison. Alors, il y a Miguel Cardozo du côté de Nantes. Il y a Blackheart, tu viens de le dire, du côté de Nîmes. Il y a Vieira qui débute comme entraîneur en Ligue 1 à Nice. Il y a Tourel au Paris Saint-Germain. Mercada à Lacan. Et alors, Guyon, il y a un petit astérisque, parce qu'en 2015-2016, il avait entraîné Reims, mais il était là comme intérimaire. C'était intérimaire. Donc là, il débute vraiment en tant qu'entraîneur principal et numéro 1.
Après, bon, il y a certains entraîneurs qui ont plus de réussite en ce début de saison que d'autres. Mais même
à moitié,
si...
quoi.
Miguel Cardozo, lui, même s'il a pas eu de réussite, on voit déjà quelques changements. Moi, j'espère que Valdemar Quita va lui laisser un peu le temps quand même de mettre tout ça en place, parce que on voit déjà que le public de la Beaujoire est déjà un peu ravi. Maintenant, le plus dur en football, c'est aussi de la finition, de marquer des buts. C'est pas toujours évident, mais on voit déjà du changement dans ce qu'il fait par rapport à ses prédécesseurs.
Alors, moi, il y a une question que j'aimerais te poser là. là-dessus. Toi, t'as pas mal voyagé au cours de ta carrière de joueur. Toi, t'as joué en Ligue 1 à une époque où finalement il y avait beaucoup d'entraîneurs français, voire exclusivement que ça. Toi, qui as pas mal voyagé, est-ce que il y avait, t'as réussi à trouver quelque chose hors de France que t'avais pas ici justement?
Mais le problème, comment je suis parti, évidemment, moi je suis parti tout de suite en Italie. La première chose que tu vois déjà, c'est que l'entraîneur est un, il est pas forcément très présent. Il n'était pas forcément très présent.
Ce qui était le cas en France.
Ce qui était le cas en France, qui était toujours sur le terrain. L'entraîneur, il peut être là, mais il était souvent...
Il délègue, quoi.
Voilà, il délègue. Et il avait, le rapport qu'il avait avec toi, c'est juste quand tu avais un problème ou tu avais envie de lui parler.
C'était quasiment un sélectionneur, quoi.
Voilà, c'était pratiquement un sélectionneur. Tu avais toujours beaucoup de les adjoints qui étaient là, qui faisaient le travail. Et la charge de travail était quand même assez... assez lourde hein quand arrivé en Italie,
c'était vraiment c'était
chargé hein
parce que j'ai mais sur quel point précis?
Non, physique, je peux te dire, j'étais moi mes premiers entraînements, j'ai chialé hein parce que je
t'as vomi?
Ah ouais, vraiment?
Ah ouais, ouais, non mais je pleurais, je chialais, j'étais, je me rappelle, j'étais au Torino, j'étais avec Abidi Pelé, il me disait non, mais ça va, moi aussi j'étais comme ça, mais j'en pouvais plus. Tous les matins aller faire 3 heures de footing en la montagne, c'était chaud.
Ouais, ouais. T'es passé par l'Autriche, on le rappelle, l'Allemagne également hein, dans ta carrière, et le Luxembourg.
Tu travailles
au Luxembourg toujours. C'était vers la fin.
C'était pour la déconne, ça.
Oui, c'était
Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Sam, parce que on a souvent eu tendance à dire d'ailleurs ici dans l'After qu'on manque un peu de diversité au niveau des profils des entraîneurs en France. C'est vrai que le fait d'avoir des mecs qui connaissent pas forcément la Ligue 1, ça peut t'apporter un plus. Ça peut être, alors ça peut les desservir aussi. Hein, une réalité qu'ils maîtrisent parfois pas aussi, mais ça apporte un peu de fraîcheur quand même.
Oui. Puis cet été, on avait fait la liste des équipes qui avaient un projet de jeu apparent. Et enthousiasmant de ce qu'on avait vu lors des matchs de préparation. Il y avait plus d'une douzaine d'équipes qui présentaient ce profil-là. Donc ça, déjà, c'est une vraie progression. Après, juste le seul petit bémol que je mettrais, c'est que je demande encore à voir sur la durée, parce qu'on se rappelle aussi que l'année dernière, on tenait les mêmes discours, notamment avec Marcelo Bielsa et Oscar Garcia. On a vu que les deux, qui étaient un petit peu les figures de proue de ce qui était censé être le renouveau.
Enfin, Garcia, Bielsa, c'était pas une découverte pour lui.
C'était pas une découverte.
Non, mais c'était quand même rafraîchissant. C'est un entraîneur qui a de la personnalité, qui apporte quelque chose.
D'accord.
Et donc, on a vu un petit peu que ces deux entraîneurs qui étaient censés incarner ce renouveau en Ligue 1, ça a pas marché du tout. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on là, on est sur le début de championnat est quand même assez plaisant. Vraiment plaisant. On n'a pas encore eu ces fameux soirs d'hiver où on se lamente en commentant le multiplex.
Attends, samedi soir, à la mi-temps, il y avait un but sur 5 matchs.
Oui, d'accord.
C'était pas...
l'ensemble
Alors
des matchs.
Ça s'est un peu emballé après, mais
voilà.
Non.
Mais ça reste quand même plaisant. Il y a quand même des attractions. Je pense que Nantes, voilà, ça marche pas pour l'instant, mais ce qu'ils proposent, je suis d'accord avec toi, c'est quand même intéressant.
Ce sera l'une des questions de l'after d'ailleurs, le FC Nantes tout à l'heure. Vous attend d'ailleurs supporter Nantes. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce qu'il faut laisser du temps à Cardozo?
Mais si la Ligue 1 doit vraiment progresser et passer ce cap qui sépare notre championnat du championnat d'Angleterre ou du championnat d'Italie même ou du championnat d'Espagne, je pense que ça doit être les gros clubs qui doivent prendre des très gros noms. Pour l'instant, il y a Tourelle. Je pense que c'est un très bon entraîneur, mais c'est pas pour l'instant un très gros nom. Jardim, qui a fait un travail formidable, c'est un gros nom, je pense, parce qu'il a prouvé qu'avec des bouts de ficelle, il pouvait faire des merveilles. Mais je pense, par exemple, qu'un club comme Lyon, qu'un club comme Bordeaux, qu'un club comme même, Saint-Etienne, doivent avoir des entraîneurs de stature internationale.
Oui, mais Bordeaux,
et,
actuellement,
c'est ça qui prend
Bordeaux,
un cap.
Bordeaux n'a pas un effectif pour attirer
Bordeaux,
un grand entraîneur.
On va voir comment va se dérouler le nouveau projet. C'est ça qui permettra à la Ligue 1 de passer un nouveau cap. Et autre chose, je pense que on verra l'impact qu'ont les entraîneurs sur la progression du niveau du championnat quand les entraîneurs auront les pleins pouvoirs, comme c'est le cas dans d'autres championnats. Et je pense que pour avoir les pleins pouvoirs, faut avoir des grands coachs.
Tiens, et juste également autre petite stat, Arthur Robert a bossé avec toute la team également. 6 entraîneurs, donc si on ajoute Guillon qui avait été intérimaire en 2015-2016, découvre la Ligue 1 cette saison. Il y a 3 ans, il y en avait que 3. Et en 2012-2013, encore 3 saisons auparavant, il y en avait que 3 également.
C'est sûr
qu'il y a une vraie évolution.
Il y a un renouveau.
Beaucoup d'envoi de la saison, hein, bien sûr.
Il y a un renouveau. Et puis surtout, il y a des entraîneurs qui ont débuté l'année dernière. Je pense à Pellissier en tête. On a hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année.
Non, mais juste pour finir mon avis tranché, moi j'espère, moi pour moi en tout cas, ces entraîneurs ne font pas baisser le niveau de la Ligue 1. Au contraire, ils la font progresser, et en plus on va voir, on va découvrir des joueurs grâce à eux, parce que je suis persuadé de ça, que les joueurs, ils progressent en jouant.
Et ils prennent des nouveaux joueurs aussi.
Et ils prennent des nouveaux joueurs.
Mais ils ont d'autres idées, ils connaissent d'autres joueurs, c'est pas les mêmes filières, c'est vrai.
Dans quelques instants, Patrick, supporter du FC Nantes, sera avec nous, parce que dans quelques instants, on va vous donner les questions de l'after. On vous attend sur le hashtag RMC Live, on vous attend au 32-16 également. On vous les pose d'ores et déjà, tiens, en quoi Lyon peut progresser, Lyon qui reste sur une défaite. Cette semaine est-elle déjà décisive pour Bordeaux. Faut-il laisser du temps à Cardozo? Le PSG a-t-il besoin de recruter? Tourelle qui a beaucoup misé sur les jeunes en ce tout début de saison. On y répond dans quelques instants au 32-16 avec Samy Poix et avec Jonathan Macar.
Et Nico Villas.
RMC, le football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Samy Poix, de Jonathan McCarthy, un after de 3h ce soir, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est la mi-temps entre Metz et Ajaccio, et Metz qui mène 1-0, 4e journée de Ligue 2. C'est bientôt la pause également entre Crystal Palace et Liverpool, toujours 0-0. Julien Momon sera avec nous tout à l'heure. Nos drôles de dames seront avec nous d'ailleurs tout à l'heure. On embrasse Philippe Auclair hein, qui est convalescent et qui sera bientôt de retour parmi nous. Il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire entre Valence et l'Atlético de Madrid. Un but partout entre ces deux équipes. Et puis en Italie, première journée de Serie A. On embrasse Simone qui sera avec nous dans quelques instants également. L'Atalanta mène 2-0 face à Frosinone. On passe maintenant aux questions de l'after.
Allez, vas-y, balance, mec.
Messieurs, Nantes, c'est deux défaites en deux journées. La question, bah, elle est simple, on a commencé à se la poser tout à l'heure. Est-ce qu'il faut laisser du temps à la méthode Cardozo? On rappelle que Nantes a perdu face à Monaco 3-1 lors de la première journée, qui reste sur une défaite ce week-end 2-0 face à Dijon. Alors les stats, si on s'intéresse qu'aux stats, elles sont plutôt flatteuses hein, pour le FC Nantes de Miguel Cardozo. 66% de possession de balle face à Dijon, 65% face à Monaco. D'ailleurs, c'est même un peu plus que ça. On vous a préparé la stat, c'est plus de 67% de possession de balle moyenne sur les deux matchs, plus de 11 tirs par match en moyenne sur ces deux rencontres, mais seulement deux cadrés. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs, Sam. Mmh. C'est une équipe qui a le ballon, qui tente, mais qui manque un attaquant finalement.
Oui, il manque un finisseur. C'est vrai que le travail déjà qu'il a voulu mettre en place Cardozo, ben je pense qu'il est déjà en train de le voir, c'est-à-dire la possession. Mais maintenant, après la possession, effectivement, il faut la passe juste dans les 20 derniers mètres, et c'est ça qui leur manque. Il leur manque un joueur qui est capable de faire cette dernière passe, et l'attaquant qui sait faire le déplacement pour bien finir. Maintenant, moi je pense que quand on parle de laisser le temps à un entraîneur, c'est pas forcément sur un an, parce que on voit bien que le temps qui s'installe, même si Cardozo il parle français, c'est déjà une très bonne chose, mais je pense que le temps c'est peut-être sur 2 ans.
Tiens, on va accueillir Patrick, supporter nantais, qui nous a appelé au 32-16 pour répondre à cette question de l'after. Salut Patrick.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir. Salut. Patrick.
Alors Patrick, est-ce qu'il faut laisser du temps à la méthode Cardozo, lui qui vient d'arriver du côté du FC Nantes et qui compte 2 défaites après 2 journées?
Alors moi déjà le premier point, je voudrais répondre à Sam tout à l'heure, qui parlait des supporters de la Beaujoire qui étaient ravis du changement de jeu de leur équipe, et dans un deuxième temps que le jeu avait changé, le jeu nantais par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Bah oui, on est passé d'un congélateur à un four. Donc effectivement, le jeu...
Il y a un choc thermique du coup.
Ouais, voilà, il y a un choc thermique. Et le choc thermique, il se passe pas bien. Parce que on constate aujourd'hui qu'avec l'arrivée de Cardozo, alors Cardozo, il a des principes de jeu, il veut que son équipe ait la possession de balle, que l'équipe joue au football, il va faire rentrer des jeunes. Enfin, il a un discours d'entraîneur que tous les entraîneurs veulent avoir, puisqu'ils veulent tous avoir des résultats. Seulement, après, quand on veut adapter un système avec des joueurs, il faut déjà être sûr qu'on a les joueurs qui sont en rapport avec ce qu'on veut faire sur le terrain. Aujourd'hui, je suis pas sûr que l'équipe de Nantes, malgré les recrutements qu'il y a eu, on verra quand Libombé va arriver, puisqu'il semblerait qu'il va signer et que c'est un très bon joueur, les joueurs sont pas forcément prêts à changer de système, avoir 600 passes, 67 possessions, temps de possession de balle. On sait aujourd'hui, maintenant on s'aperçoit après la Coupe du Monde, que toutes les équipes qui ont eu le ballon, ben malheureusement il y en a aucune qui était à l'arrivée. Même l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde laissait le ballon pour jouer en contre. Donc moi je suis quand même inquiet. Alors, vous parlez de temps pour l'entraîneur, je dis oui, il faut toujours laisser du temps à l'entraîneur. Alors Sam disait pas un an mais 2 ans. Non, moi je peux pas dire on va laisser 2 ans à Cardozo, parce que peut-être que dans son système on se retrouvera en Ligue 2 à la fin de l'année. Donc il faut lui laisser un peu de temps.
Alors, cela dit, Patrick, je te coupe 2 secondes parce que t'as mis le doigt sur un détail qui est important dans la méthode Cardozo, et lui d'ailleurs l'a souvent expliqué aussi, c'est que l'une des conditions essentielles pour que sa méthode fonctionne, bah, c'est que les joueurs adhèrent aussi, justement.
Mais il faut que les joueurs soient bons. Après, c'est plus qu'une question d'adhérer. Moi, je peux adhérer aussi à son système puis aller sur le terrain, mais j'aurais pas la qualité pour le faire.
Bah, oui.
Il y a des joueurs à Nantes qui n'ont pas la qualité. Déjà, il y a 2 choses. Quand on s'appelle Cardozo, qu'on est entraîneur, et tous les supporters nantais le disent, et certains journalistes aussi spécialisés dans le foot le disent, déjà quand vous jouez avec une équipe où les, la possession de balle, déjà quand vous avez de la possession de balle, au bout d'un moment, il faut quand même créer des décalages et il faut casser les lignes et puis
bah,
faut
c'est ce que je voulais dire, Patrick. Marquer. Le problème pour l'instant, moi je trouve, alors oui, il manque effectivement d'un tueur, même si Emiliano Sala, t'es quand même sûr d'avoir ta douzaine de buts par saison. C'est vrai qu'il y a, tu pourrais avoir mieux, mais ça reste quand même une valeur sûre.
Bah, t'es
même
sûr, si ça dépend beaucoup du système aussi. Voilà. Le premier match, il est pas titulaire, Sala, parce que peut-être qu'il se dit que c'est pas le système qui lui convient le mieux, justement.
Bah, en cas de 3-1, comme ça, bon. Le problème vraiment qu'il y a au FC Nantes, c'est que bon, c'est une équipe, on l'a vu, hein, ils ont des intentions de jeu, ils récupèrent le ballon assez facilement. L'équipe a la possession, mais dans les phases de transition, c'est beaucoup trop lent. Alors que ce soit Touré ou Moutoussamy, je ne pense pas qu'ils aient les qualités pour voilà justement accélérer le jeu, pour faire en sorte que la possession ne soit pas stérile. Et je pense surtout que Rongier installé comme ça, un petit peu plus haut sur le terrain, c'est une très mauvaise idée.
Alors voilà, c'était mon deuxième point. Voilà, exactement. Rongier qui joue numéro 10, ouais, c'est du grand n'importe quoi. Comment on peut être technicien comme Cardozo, être un entraîneur, enfin un grand entraîneur, non peut-être pas, un petit entraîneur débutant, je vais dire moi, Cardozo fait jouer Rongier numéro 10, mais c'est une aberration.
C'est très curieux.
C'est une aberration.
C'est très très
c'est
curieux.
C'est n'importe quoi.
Surtout que t'as Bosquilia qui peut éventuellement jouer derrière l'attaquant. Tu vois,
et puis Rongier est très bon aussi, mais il était Rongier, le meilleur tacleur des championnats européens la
Rongier
dernière.
Il serait parfait, c'est pour ça que je comprends pas, c'est que en plus vous jouez en 4-2-3 avec un double pivot. Donc je comprends pas pourquoi Rongier est pas a pas une place dans les deux au milieu de terrain.
Bah personne comprend.
Tu le gâches comme
personne
ça.
Comprend.
Et ça fait que Rongier, c'est un très bon joueur hein, dans son registre, mais de le mettre comme ça aussi haut, bah ça fait que voilà, Nantes c'est vrai le ballon, Nantes récupère le ballon assez facilement, Nantes récupère le ballon très haut, mais ça manque réellement de il manque cet accélérateur de particules. Tu vois, c'est assez monotone pour l'instant. Alors, on la tire pas dans les pattes parce que on a quand même vu des intentions de jeu qui sont intéressantes, mais va falloir quand même faire quelques réajustements.
Alors, oui, exactement.
Mais toi, Patrick, t'es pas plus emballé que ça parce que tu vois depuis le début de saison. Moi, je
attends, je sais pas que je suis emballé. C'est pire.
Je te parle pas des résultats, Patrick. Hein, je te parle
non,
déjà.
Non. Attends, les résultats, c'est une chose. Tu vois, il y en a plein qui disent, oh, c'est scandaleux, on était perdre à Dijon. Il y a aucun scandale à perdre à Dijon. Il y a plein d'équipes qui vont perdre à Dijon. Ah ouais. Dijon, une équipe qui joue au bout. Mais c'est la façon dont tu perds. La façon dont tu perds, elle est inadmissible. Je sais pas si vous avez vu le dialogue de la Brigade Loire. Le responsable qu'il a eu avec Rongier, Touré et Diego Carlos. Vous l'avez vu, non?
Non,
sur la vidéo. Bon, bah, essayez de voir cette vidéo-là.
Les gars de la Brigade Loire,
ils sont complètement derrière leur équipe, mais sauf qu'ils leur demandent au moins sur le terrain de faire ce qu'il faut. Après, on peut perdre des matchs, on a le droit de perdre des matchs et le football, on peut pas toujours gagner. Mais il y a des façons de perdre. Ou on perd parce qu'on a joué, l'autre était plus fort que nous, on accepte. Mais quand on perd comme on a perdu contre Dijon, moi je dis que c'est scandaleux. Point barre.
Scandaleux. C'est...
Merci Patrick de nous avoir appelé en tout cas.
Salut Patrick.
Mais moi, merci à vous.
Bonne soirée Patrick, à très bientôt. Salut. Salut
bonsoir
Patrick. Prochain match
bonsoir
de Nantes, ce sera à domicile face à Caen. Ensuite, ils iront à Strasbourg. Ils vont recevoir Reims et ils iront à Lille. Les prochains matchs vont être importants pour Nantes, hein, qui est en grand besoin de points. On va accueillir Johan, tiens, qui est supporter du Barça et qui a un autre avis justement sur la méthode Cardozo. Il a envie de commenter la méthode Cardozo. Salut Johan.
Salut à tous.
Bonsoir. Salut Johan.
Alors Johan, t'en penses quoi toi? Est-ce qu'il faut laisser du temps à Miguel Cardozo du côté du FC Nantes pour que sa méthode
bien
s'installe?
Bien sûr. Moi, c'est une évidence, je suis désolé. Le football, ça reste du spectacle, ça reste un divertissement. Et moi, je suis désolé, quand on joue, quand on prend l'exemple de la France, voilà, qui a gagné le mondial comme ça, moi, je me suis fait tout simplement, je me suis emmerdé avec la France, à regarder la France jouer. Et puis en plus, voilà, nous, en France, on est un peu dans l'immédiat. Je vous rappelle que si on veut atteindre des objectifs, certains objectifs que la Ligue s'est fixé comme voilà d'augmenter les droits télé, etc. Et ben il faut proposer du spectacle justement. Il faut voir à long terme. Ça sera profitable, je pense, pour tout le monde, que ce soit pour les spectateurs ou que ce soit pour les clubs. Donc oui, il faut laisser du temps à ce genre d'entraîneur. Faut qu'on réussisse à installer dans ce championnat une philosophie de jeu.
Attends, Johan, je vais te faire une petite remarque sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis faut laisser à ce genre d'entraîneur installer une philosophie de jeu, moi c'est là où je vais juste mettre une nuance et je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais la nuance c'est que il faut laisser du temps à des entraîneurs qui ont de la personnalité, peu importe la manière dont ils jouent. Que ça soit un entraîneur qui va jouer hyper défensif avec des mecs qui mettent des coups de partout et où ça part à 1000 à l'heure, tant que ça a de la personnalité, pour moi ça se vaut.
Tu sais quoi, je suis content qu'on ait ce débat parce que c'est un peu le débat qu'il y a eu cet après-midi dans Team Duga avec l'ex l'excellent Jean-Louis Tour et Christophe Dugarry. C'est la rentrée hein, sur RMC depuis aujourd'hui. D'ailleurs, il se posait la question en rapport avec l'équipe de France, puisque tu l'évoquais il y a quelques instants, Johan, de savoir si finalement on avait le droit de critiquer l'équipe de France après qu'ils aient gagné. Derrière ça, il y a le fameux débat philosophique du on préfère quoi, gagner, la méthode ou la finalité.
Cet été, on a eu le temps. On n'avait pas une actualité folle, donc on a pu faire des avis tranchés un peu plus larges. J'ai fait un avis tranché sur qu'est-ce que le beau jeu. Et je pense que quand on est à ce genre de discours-là, il faut bien préciser ce qu'est le beau jeu. Et pour synthétiser, pour moi, le beau jeu, c'est une équipe qui a de la personnalité. Parce que le Barça, c'est agréable à voir. Liverpool, c'est agréable à voir. L'Atlético, c'est agréable à voir. Mais c'est trois styles de jeu totalement différents. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être totalement sectaire quand on parle de ce sujet-là.
Je suis pas d'accord, moi. Je suis pas du tout d'accord. L'Atlético.
Bah après, le beau est très subjectif, forcément.
Bah ouais, mais bon, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le football, c'est censé être un divertissement, c'est censé être du spectacle.
Oui, mais Johan, ce qui va te plaire à toi va pas forcément te plaire à moi.
Johan, moi, cette tentative un petit peu prétentieuse de vouloir définir ce qu'était le beau football cet été, je pense que le beau, ça existe, c'est pas subjectif, c'est objectif, mais le beau doit correspondre à trois critères. Le premier critère, c'est quelque chose qui est cohérent, quelque chose qui a de la personnalité et quelque chose qui est en adéquation avec l'histoire et l'ADN du club.
L'histoire, c'est des valeurs, c'est des références, chacun a les siennes.
Je pense qu'on a des équipes dans l'histoire du football, on a des équipes qui nous ont montré ce que c'est que le beau football. Je pense au Barça, je pense à l'Ajax du temps de Cruyff. Je pense au Brésil du temps de Bebeto
et pour toi l'Atlético c'est pas beau. De voir des mecs qui finissent le cul par terre, qui sont un petit peu le club de loser magnifique, de voir des joueurs qui sont guerriers, qui vont au charbon,
ça c'est beau d'avoir des joueurs guerriers, c'est de la beauté.
C'est beau, oui.
Pour moi, c'est pas du spectacle.
C'est beau.
Est-ce que le football c'est du spectacle ou pas pour toi? Déjà, faudrait savoir.
Pour moi, le football c'est pas du spectacle, non. C'est
quoi? D'accord.
Le football c'est un sport, c'est un jeu et c'est un vecteur de représentation sociale avant tout.
C'est du sport, c'est du spectacle, c'est de la passion.
Tiens, Johan, faut que je te coupe, mais reste avec nous. On poursuit ce débat dans quelques instants avec Samy Pou, avec Jonathan Macardy. La question vous a été posée sur Twitter par Valérie, notre CM de ce soir. Le FC Nantes doit-il laisser du temps à la méthode Cardozo? Supporters nantais, ils disent oui à 82% quand même, les supporters du FC Nantes. On continue ce débat dans quelques instants dans l'after. Donc, on vous attend sur le hashtag RMCL. Vous êtes très nombreux d'ailleurs au 32-16 à répondre à cette question. Qui, oui, mon cher Johan, est philosophique. Reste avec nous, Johan. On revient dans quelques instants. Je vous redonne juste, je vous actualise un petit peu les résultats. Je fais un petit F5 sur le PC. C'est la mi-temps entre Liverpool et Palace. Liverpool qui a marqué à la 45e, James Milner. Metz qui mène toujours 1-0 à la 56e face à Ajaccio. Et c'est terminé entre la Valence et le très beau Atletico, nous dit Jonathan Macardy. Un partout entre ces deux équipes. Les premiers points perdus par les Colchoneros dès la première journée. L'after revient juste après ça.
RMC, le football show, l'after foot.